bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille en votre compagnie, mais pas toute seule, puisque c'est l'émission Les Voix de Service qui commence sur Canal M jusqu'à 11h45. Et des voix de service, il y en aura encore pas mal ce matin. Je pense à Michel Audet, je pense à André Etienne, je pense à Christiane Campagna, Kevin Breton, en tout cas plein de gens. Gérard Cyr aussi, je pense, qui va se joindre à nous. Et les thèmes qui seront abordés en cette première demi-heure, eh bien, alerte à la fraude en ce qui concerne les élections fédérales. Puisqu'on parle de ces élections, l'égalité homme-femme, peut-être faudrait-il commencer par la politique, non? Et puis, on parlera des vétérans et il y aura aussi un édito que je vais vous lire dans le Devoir. Ensuite, ce sera la nouvelle virale. Christiane Campagna va venir se joindre à moi ce matin. Et puis, dans le journal de Montréal, on parle de ce tueur qui avait d'ailleurs avoué qu'il avait tué sa femme, qui a été libérée. Il s'appelle Monsieur Laflamme. La position de la ville en matière de cyclisme, il en sera question aussi. Et évidemment, Volkswagen, ce Dieselgate, c'est un truc énorme. Hein. On n'imagine même pas la portée de cela, et dans tous les pays du monde, y compris le nôtre, évidemment. Et puis, travailler pour s'appauvrir, ce sera la chronique de Mathieu Boccoté dans le Journal de Montréal. Bonjour mon petit Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Ça va très bien.
En ce 22 septembre, à chaque fois que je vois 22 septembre, je pense à une chanson de Brassens.
C'est vrai.
Qui s'appelle
Le 22 septembre.
Le 22 septembre et qui finit par ces mots merveilleux et d'une tristesse infinie. Et c'est triste.
Triste de ne pas être triste sans vous.
Voilà. Et c'est triste de n'être plus triste.
De n'être plus triste. Ah,
sans
bon.
Vous. Ça c'est encore... Oh, c'est pire que tout. Hein. Voilà, alors bon, ce moment de poésie chansonnière étant passé, mon petit Mathieu, qu'est-ce que vous avez pour nous en ce 22 septembre?
Le mime français, oui. Marcel Marceau, est décédé en 2007, un 22 septembre.
Ouais.
Oui, ça fait beaucoup de bruit.
Septembre. Oh.
En 1929, pardon, l'ouverture du pont de Québec.
Oui.
Et puis, avec 42 millions de visiteurs, Expo Québec à Montréal améliore la marque de l'exposition de Bruxelles, qui était, elle, en 1958.
Oui.
Et la capitale du Canada est déplacée de Toronto à Québec en 1851.
La capitale du
oui,
Canada?
Le Bas-Canada, avant de devenir des provinces.
Oui. Ah, bah oui. Ah oui, donc Québec était la capitale canadienne.
Canadienne?
Ah, oui.
Et puis en 1792, ma chère Clotilde, oui. La République est proclamée en France.
Ah ben oui.
Félicitations.
Merci beaucoup. Oui, je m'en souviens.
Vous étiez jeune
été...
à l'époque.
Oui, oui, mais enfin, je me souviens, ça a été un party.
C'est vrai?
Oh, oh là 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 là.
C'est tout.
C'est tout ce que vous avez?
Ben oui.
Bon, OK, mais pourtant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas la journée internationale sans voiture? Le 22 septembre?
Oui, je vais vérifier.
Oui, je suis sûre. Mais il n'y a plus que chez nous, quasiment, qu'on ne fait plus rien. Avant, ils fermaient Sainte-Catherine, je ne sais pas si vous vous souvenez, puis ils mettaient de la tourbe l'espace d'une journée.
Oui, peut-être parce qu'ils la ferment à longueur de
à longueur l'été, d'année. Maintenant, ils ont remplacé la tourbe par les troubles.
Mais
nous
sommes poètes ce matin.
quand même. Merci beaucoup, Mathieu, et bonne émission.
Plaisir.
Alors, je commence avec la une du Devoir ce matin et les cyclistes qui sont à la une. On veut sécuriser les cyclistes montréalais, mais la ville de Montréal s'oppose au port du casque obligatoire avec une photo d'un monsieur l'agent qui parle à un homme qui est en train d'utiliser un bixi. À l'étude, à la une du Devoir, les CPE critiqués par un chercheur aussi conseillé de Trudeau. Alerte aux fraudes électorales, je vous en parle dans quelques secondes. Jusqu'à 800 réfugiés syriens sont attendus à Québec, dans la ville même de Québec. On en parle évidemment beaucoup dans Le Soleil. Et puis, Le Festival international de littérature, dont nous parlons d'ailleurs cette semaine à l'émission Tout le monde, Des livres plein les oreilles, j'ai failli dire Tout le monde en parle, why. Des livres plein les oreilles avec, comment elle s'appelle, Pascal Monpetit, qui fait partie de la programmation. Et il y a un spectacle très très attendu, c'est ce spectacle qui réunit sur scène Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre. C'est sur scène jeudi soir qui vient. Ils vont simplement faire quoi? Ils vont lire des textes de Serge Gainsbourg, donc complètement dépouillés de sa musique. Et ça va être bien, bien, bien intéressant. Alors, je vais tout de suite passer à un premier titre, puisqu'il en est question à la une du Devoir ce matin. C'est « Alerte à la fraude électorale ». Oh, fraude électorale, au pluriel, s'il vous plaît. On dirait Marco Fortier, un scénario de télésérie américaine, mais c'est bel et bien la réalité. Figurez-vous que les partis politiques disposent de moyens sophistiqués pour cibler les électeurs qui sont réfractaires à leurs idées et les empêcher d'aller voter. Oui, oui. Et c'est ce que dit une note du service d'élections Canada. Il y a un document interne à cet organisme qui supervise les élections fédérales qui a été obtenu par la presse canadienne et qui met en garde contre les risques de fraude électorale visant à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de vote. Ça, c'est un phénomène qui est très répandu aux États-Unis, mais qui risque de s'étendre au Canada, indique cette note de service. On l'a vu entre autres aux élections au mois de mai 2011. Un organisateur conservateur de Guelph en Ontario, qui s'appelle Michael Sona, qui a induit en erreur des milliers d'électeurs adverses en diffusant un message automatisé qui les dirigeait vers un faux bureau de vote. Pouvez-vous croire ça? Eh bien, il a été condamné à 9 mois de prison et à 12 mois de probation. Il est important pour nous d'identifier les risques potentiels dans le but d'être prêt à détecter et à gérer les incidents qui peuvent survenir, y compris ceux qui pourraient compromettre l'intégrité de l'élection, a affirmé le porte-parole d'Élections Canada. Par exemple, Jean-Pierre Kingsley affirme avoir été surpris et déçu par l'enquête du commissaire aux élections qui a fini en queue de poisson en 2014. Monsieur Côté avait conclu à l'impossibilité de poursuivre quiconque devant les tribunaux dans l'affaire des appels robotisés. On se souvient bien de cela. Alors, des stratégies illicites comme celle-là, il y en a moins au Canada. Hein. Ce papier de Marco Fortier nous dit qu'elles semblent plutôt rares, mais qu'elles deviennent de plus en plus courantes aux États-Unis, selon Élections Canada, qui a consulté des experts et des avocats sur les malversations électorales. Élections Canada cite les 4 étapes d'un plan de suppression de vote efficace, soit recenser les non-partisans, récolter des informations sur ceux-ci, les décourager de se rendre au bureau de vote par des tactiques de peur, de désinformation ou de contestation systématique de leurs inscriptions. Si les électeurs non partisans se rendent tout de même aux urnes, les empêcher de voter en contestant leur habilité à voter ou leur identité, ou encore en recourant à l'intimidation. Ouais, mais enfin bon, quand même. Effectivement, il me semble que c'est assez rare ici au Québec. On remarque que c'est M. Alain Gégagnon qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. J'aurais dû dire l'UQAM, ça aurait été plus court. Remarque que les partis, surtout le Bloc québécois et le Parti conservateur, ont un défi plus pressant durant cette campagne électorale, s'assurer que leurs partisans iront voter et non empêcher les partisans adverses d'aller voter. Le Bloc perd son électorat au profit du NPD. Quant aux conservateurs, ils se sont éloignés de leur base en prenant le pouvoir, ce qui a bien déçu des militants du parti. Gilles Duceppe et Stephen Harper doivent donner une bonne raison à leurs partisans de sortir pour aller voter pour eux, dit ce monsieur Gagnon. Débat à ces élections fédérales. Sans Harper, les chefs s'engagent pour les femmes. Le changement doit commencer au Parlement, disent les partis. Et envoient une photo d'Elisabeth May qui a déclaré « Je n'ai jamais travaillé dans un milieu aussi dominé par les hommes et rempli de testostérone que la Chambre des communes ». Les enjeux qui touchent les femmes, écrit Laura Pelletier, presque absent de la campagne électorale fédérale, ont refait surface lundi soir lors d'un débat au format alternatif. Les chefs, excepté Stephen Harper qui avait refusé d'y participer, s'entendent pour dire que pour obtenir l'égalité des sexes, tant au Canada qu'à l'international, davantage de femmes doivent être élues en politique, mais ce domaine est loin d'être un modèle à ce jour. Dans les entrevues individuelles diffusées lundi soir au théâtre Isabelle Bader à Toronto et sur les sites web du Devoir et du Toronto Star, les chefs du Nouveau Parti démocratique, du Parti libéral du Canada, du Parti vert et du Bloc québécois s'entendent sur l'importance d'élargir une stratégie nationale pour lutter contre la violence faite aux femmes, de lancer une enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, de lutter contre les inégalités et de rendre plus accessibles les services de garde. La citation du jour, on la doit à Justin Trudeau à propos de l'exclusion de la chef du Parti vert du débat Monk sur les affaires étrangères qui aura lieu le 28 septembre prochain. Il a dit, Monsieur Trudeau, ma fille a regardé mon débat jeudi soir dernier et ce qui m'agace est que lorsqu'elle voit les gens qui pourraient devenir Premier ministre, il n'y a aucune femme parmi eux. C'est une autre raison pour laquelle Elizabeth May devrait être du débat Monk, et d'ailleurs de tous les débats, a dit Justin Trudeau. En ce qui concerne les vétérans, le chef néo-démocrate Thomas Mulcair était à Halifax pour annoncer ce qu'un gouvernement néo-démocrate ferait pour améliorer la situation des anciens combattants, pour qui les conservateurs ont manqué de respect, selon lui. Les néo-démocrates ont promis d'investir 454 millions de dollars sur 4 ans pour améliorer l'accès aux services à long terme pour les anciens soldats, notamment pour ceux qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. De l'argent sera également versé dans le programme pour l'autonomie des anciens combattants qui permet aux anciens militaires aînés ou handicapés de recevoir de l'aide pour divers services. Un petit mot sur la caricature de Garnott avant de passer à l'éditorial du jour dans Le Devoir. Montréal contre le port du casque obligatoire. Nous voyons monsieur toujours très souriant et très volontaire, Denis Coderre, qui est juché sur un des Bixi montréalais et qui dit « Ben, laissez-nous donc porter ce qu'on veut en guise de casque et je vous le donne en mille. » Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Un cône orange. Et puis Madame Boileau, ce matin, dans son éditorial dans Le Devoir, revient sur la tragédie de Lac-Mégantic, mais surtout sur l'après-tragédie. Et elle dit « Il a fallu presque un an après la tragédie pour que le ministre québécois des Affaires municipales annonce la tenue d'une étude de faisabilité de cette voie, presque une autre année pour que ce mandat soit finalement octroyé. Et il faut maintenant attendre 3 ans pour en avoir les résultats. » C'est interminable au vu de la souffrance des Mégantiquois, dit José Boileau, toujours présente et bien exposée au Devoir par leur ancien curé Steve Lemay. Et que fait Ottawa? Que fait Ottawa qui finance la moitié de l'étude de faisabilité qui a les pouvoirs en matière de sécurité ferroviaire? Eh bien, il laisse le dossier aller, il s'en lave les mains. Le gouvernement Harper pourrait, comme le réclame le Parti vert, bloquer tout futur transport de pétrole sur les rails du centre-ville et tous les partis doivent s'engager fermement, dit Mme Boileau, en faveur de la voie de contournement. Les chefs du NPD, du Bloc et des Verts l'ont fait, mais le Parti conservateur n'en souffle mot et le candidat libéral renvoie à l'étude en cours. Il y a des enjeux locaux qui ont des valeurs de symbole. Combien faudra-t-il de mégantiques pour sonner le réveil? C'est la question que nous pose ce matin Mme Boileau en guise de conclusion à son éditorial. Bonjour Christiane.
Bonjour Clotilde.
Alors ce matin, j'ai bien hâte de voir ce qui fait écrire nos internautes et autres Twitter du genre.
En fait, je vais revenir un petit peu sur quelque chose qui s'est passé dimanche soir, parce que dimanche soir, chez nous, c'était les Gémeaux, mais c'était l'équivalent aux États-Unis, oui, puisque c'était les Emmy. Et il y a Viola Davis qui fut la première noire à remporter un Emmy pour un rôle dramatique. Et dans les vidéos virales depuis ce temps-là, il y a son discours de remerciement.
Oui.
Et là, j'attendais de tomber sur quelque chose qui nous en traduirait des petits bouts en français et je l'ai trouvé sur slide.fr. Tout d'abord, elle a cité Harriet Tubman, une femme noire et ancienne esclave qui a combattu pour la liberté des Afro-Américains à la fin du 19e siècle et qui disait « Dans mon esprit, je vois une ligne ». Et au-delà de cette ligne, je vois des terrains verts, de magnifiques fleurs et de superbes femmes blanches qui me tendent leurs bras à travers cette ligne. Mais je n'arrive pas à y arriver. Non, c'est pas ça, en fait. C'est parce que je disais pas le bon mot. Mais je n'arrive pas à y aller.
Okay.
Je n'arrive pas à passer cette ligne.
Mm-hmm.
Lors de son discours de remerciement, elle a aussi salué le travail de la productrice Shonda Rhimes pour avoir redéfini ce que voulait dire être belle, être sexy, être femme de décision et être noire. C'est la productrice aussi Orange is the New Black, je pense.
Ouais.
Fait des beaux rôles pour les femmes. Et elle a ajouté « La seule chose qui sépare les femmes de couleur de n'importe qui d'autre, ce sont les opportunités. On ne peut pas gagner un Emmy pour des rôles qui n'existent pas. »
Certes. Oui, non, effectivement. Je sais qu'il y a un papier aujourd'hui, parce que c'est dans le Journal de Montréal, je ne me souviens plus, sur lequel peut-être je reviendrai à la toute fin de l'émission. Mais effectivement, c'est intéressant qu'il y ait des gens. Ben, nous, chez nous, c'est Martin Matt quand même.
Oui.
Alors, vous savez que c'est confirmé. Hein. Ce n'était pas du tout en fonction de l'austérité qu'il parlait.
Non,
hein. Il parlait. C'était surtout après la mort là, de ce pauvre type là, qui était cantinier.
Oui.
En tout cas, moi, je connais du monde là, dans le milieu, puis justement, qui travaille... Et puis, j'aime mieux vous dire que c'est bien que ça brasse.
Bonne affaire. Et aussi, en revenant sur dimanche, il y a Urbania. Ce n'est pas un auteur en particulier, là, c'est au nom de Urbania, qui précise que l'ovation à Max Pacioretty, qu'on a un peu décrit, elle avait été commandée par les animateurs de foule pendant la pause.
Ah, OK. OK, mais alors, question, comment se fait-il que les animateurs de foule n'en aient pas demandé pour d'autres personnes?
Autres, on compte, j'imagine, sur le côté plus spontané des choses quand les gens gagneront des prix.
Eh bien non, raté.
Ils avaient 30 secondes pour répondre.
Ouais,
peut-être qu'ils ne voulaient pas les interrompre. On réagit un peu à l'éventuel départ de Jean Tremblay,
ouais,
de Saguenay.
Ouais.
Mais hier, on se contentait surtout de faire circuler la nouvelle.
Oui.
Il y a Daniel Thibault qui dit que Jean Tremblay ne se représentera pas à la mairie de Saguenay. Il se consacrera désormais à la traversée du lac Saint-Jean à la marche.
Elle est bonne parce qu'il se prend tellement pour Jésus que c'est
voilà.
Miracle. Ah, elle est très, très bonne. Elle est très bonne.
Parlant des coupes dans la lutte au décrochage, il y a le gros raté, c'est son nom Twitter, qui a dit au nom des générations futures, sans doute.
Ah, oui.
Parce que c'est toujours ça qu'on évoque. Et Paquette Le Chameau qui dit « La vitesse à laquelle le MTQ a remblayé le village des tanneries n'était qu'un exercice pour l'enterrement à venir du rapport Charbonneau. »
Oh! Oui. Non, mais il y a quand même des gens, voyez-vous, moi qui ne suis absolument pas Twitter, depuis que vous venez comme ça tous les matins, je me dis « Ah, il y a quand même des trucs sympathiques là-dessus. » Qui...
C'est comme je dis, c'est des caricaturistes en 140 caractères.
Ouais,
c'est comme ça que
c'est vraiment, 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 vous avez raison. Merci beaucoup, Christiane. On se retrouve un petit peu plus tard.
Oui, pour le bulletin du handicap.
D'accord. Alors, je suis à la une du Journal de Montréal qui se décline en plusieurs titres. D'abord, la malédiction des hommes forts. Je suis sûre que Kevin Breton va revenir sur ce drame sans détain de cet ancien Canadien qui s'appelle Todd Ewen, qui s'est enlevé la vie. Apparemment, c'était un des anciens hommes forts du Canada et du Canadien, surtout, qui ne rechignait pas à acheter les gants. Et il a souffert de je ne sais plus combien de commotions cérébrales suite à des bagarres, 40 bagarres en tout. Il a connu dans la Ligue nationale à un moment donné, c'est sûr que ça ne peut que laisser des traces. Et bien lui, apparemment, ce sont des traces aussi psychologiques qu'il a subies et il s'est enlevé la vie. Volkswagen accusé de tromperie, le scandale touche le Canada, bien sûr, le scandale touche absolument tout le monde au pays. On parle d'une gestion désastreuse au MAPAC et d'un fonctionnaire récompensé, encore un, j'imagine, qui a touché de l'argent quand il n'aurait pas dû. Mais le gros, gros titre à la une du journal ce matin, c'est ce tueur libéré pour un crime commis il y a 30 49 ans. Ses vœux ont été annulés par la cour. Il s'appelle Michel Laflamme, lui qui a admis aux policiers le meurtre de sa femme commis en 1976. Il est finalement blanchi. Ça me surprend beaucoup. Il est libre. Il va faire ce qu'il veut. Laisse tomber d'un ton amer Roland Waltz, qui est le frère de la victime, avant de raccrocher rapidement. Michel Laflamme, dresseur de chiens au passé trouble, purgeait une peine d'incarcération à perpétuité depuis 5 ans et demi avant que le plus haut tribunal du Québec ordonne l'arrêt des procédures à son encontre hier. L'homme de 61 ans pourrait quitter le pénitencier à sécurité moyenne de Cowansville dès aujourd'hui. Le 4 septembre 1976, Carmen Waltz, 23 ans, a été trouvée sans vie dans sa voiture près d'un centre commercial de Belleuil. Cette maman d'une fillette d'un an et demi était enceinte de 8 mois au moment du drame. Et ce n'est qu'en 2008, que son mari a été épinglé par la Sûreté du Québec quand Laflamme a avoué le crime à des policiers qui l'avaient embauché dans une organisation clandestine en jouant le rôle de criminel pour le piéger. Pendant 5 mois, ils ont gagné sa confiance en lui faisant transporter des diamants et des liasses d'argent, en plus de l'emmener voir le Canadien au Centre Bell et de lui verser 12 000 dollars en salaire. S'il voulait rester au sein du clan, Laflamme devait ne rien cacher sur son passé et se confier au patron Mr. Big. Il a alors admis le meurtre de sa compagne. Bien sûr, il a été jugé et donc il a été, je vous le disais, enfermé à perpétuité. Et là, la cour... les juges Allen, Hilton, Lorne Giroux et Jacques Dufresne estiment que cet aveu est un abus de procédure, inadmissible en preuve parce que les policiers ont compromis leur enquête par des tactiques coercitives et la contrainte. Ils n'ordonnent pas la tenue d'un nouveau procès. Donc le gars est complètement libre et c'est pour ça que ça fait sursauter le frère de la victime, M. Waltz, et c'était lui qui s'exprimait au tout début de ce papier écrit par Éric Thibault lorsqu'il disait « ça me surprend beaucoup, il est libre, il va faire ce qu'il veut ». Et on sait que ce M. Laflamme n'a pas l'air d'être un saint. Hein. Alors, en ce qui concerne le cyclisme, Montréal s'oppose au port du casque obligatoire, mais la ville a cette position bien ferme. Alors, en ce qui concerne le casque, elle préfère faire de la sensibilisation en faveur du port du casque plutôt que de l'imposer. En ce qui concerne le fait de rouler sur les trottoirs, on peut rouler sur les trottoirs seulement quand la signalisation le permet ou selon certaines conditions. Les enfants devraient avoir le droit d'y rouler en tout temps. Le stop américain, la ville dit que oui, on pourrait autoriser les cyclistes à ne pas respecter les panneaux arrêt quand personne ne traverse, évidemment. Pour contrer l'emportiérage, il faudrait réduire à tout prix les accidents causés par l'emportiérage en augmentant les amendes et en retirant l'obligation de circuler à l'extrême droite sur la rue. Oui, parce que c'est ça aussi le problème. On ne peut pas incriminer non plus que les gens qui ouvrent leurs portières quand on se fait doubler par la droite, là. C'est ça qui est ça. Faculté affaiblie, interdire aux cyclistes de conduire avec les facultés affaiblies, comme les conducteurs de voitures, contre les écouteurs, interdire, oui, les écouteurs et l'utilisation du cellulaire en roulant à vélo, et puis virage à droite sur un feu rouge, permettre aux cyclistes de tourner à droite à un feu rouge, mais interdire aux cyclistes de considérer les feux rouges comme un stop. Autrement dit, dès que c'est un feu rouge, de toute façon, je m'en fous et je passe. Et c'est sur ce sujet que s'exprime ce matin M. Martineau en page 6, ça s'appelle « Avec pas de casque ». Pour paraphraser le titre, le nom d'un groupe. Alors ainsi, la ville de Montréal, nous dit M. Martineau, n'imposera pas le casque obligatoire aux adeptes du vélo car ça risquerait de faire diminuer le nombre de cyclistes. Il dit « Mais alors pourquoi n'a-t-on pas procédé de cette façon pour le port des ceintures de sécurité dans les autos autant qu'à faire ?» On ne l'imposera pas car ça va enlever le goût aux gens de prendre leur voiture. Ils sont habitués à rouler sans ceinture, alors si on les oblige à en mettre une, ils vont préférer laisser leur auto dans le garage plutôt que de changer leurs habitudes de conduite. Je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher tout ça, mais il va le chercher. Non mais quelle étrange façon de procéder. Les cyclistes ne font pas leur stop, alors au lieu de les obliger à respecter les arrêts obligatoires sous peine d'amende, on va leur permettre de faire des stops américains. Coudon, c'est le cycliste qui décide des règlements ou ce sont les autorités? Il dit, oh, vous savez, un peu partout, on songe à déblayer les pistes cyclables l'hiver en plus pour permettre aux freaks du vélo nordique de pratiquer leur sport préféré à moins 25. OK, parfait, mais à deux conditions, dit Martineau. Et ça, là, je m'adresse à M. Tessier. Tu fais du vélo en hiver, toi?
Oui, madame.
Sur la glace, sur la neige, tout ça?
Pas sur la glace, mais sur la rue.
Sur la rue? Oui, mais sur la rue, quand il y a de la glace puis de la neige, tu fais quoi pour freiner?
Ben, on freine, on prend son temps, on prévoit.
En tout cas, Martineau qui dit « OK, d'accord, continuez, M. Mathieu Tessier, mais vous devez emprunter la piste cyclable, lorsqu'il y en a une. Hors de question que vous pédaliez entre les autos qui glissent et patinent parce que la rue est glacée et mal déneigée. » Et il dit surtout « La pratique du vélo hivernal se fera à vos risques et périls. Personne ne sera tenu responsable en cas d'accident. »
Durant l'hiver?
Oui. Ben oui, garde. Écoute, donc, on a déjà du mal à monter, on patine quand on marche, on patine. Si vous faites du vélo, ben, que ce soit à vos risques et périls. Oh! Et puis, l'impardonnable tricherie de Volkswagen. Je suis à titre personnel sincèrement navré que nous n'ayons pas été à la hauteur de la confiance de nos clients et du public. Ça, c'est Martin Winterkorn, le président du directoire, c'est comme ça que ça s'appelle, de Volkswagen Group, à la suite de ce méga scandale qui éclabousse Volkswagen et Audi, hein? Et Audi, à l'échelle mondiale, non seulement je m'excuserai, mais en plus je démissionnerai sur le champ. C'est ce qu'écrit Michel Girard dans le journal de Montréal ce matin. Aux États-Unis seulement, ce sont 428 000 véhicules Vox à moteur diesel qui sont visés par l'avis de violation des normes anti-pollution de l'EPA. L'ordre, bien entendu, le Canada se trouve forcément touché par ce scandale qui mine la confiance. Non seulement des propriétaires des Volks et Audi, un moteur diesel, mais également des concessionnaires du premier constructeur automobile du monde. C'est complètement fou. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, la bourse est en train, je dirais, leurs actions dégringolent comme c'est pas permis. À la limite, j'entendais une entrevue ce matin où on disait qu'ils risquaient carrément et purement et simplement la fermeture. Vous imaginez, s'il fallait que Volkswagen et Audi ferme, ne produisent plus de voitures, le nombre de personnes que ça mettrait au chômage, ça? Bon, ils vont trouver une petite entourloupe, ils vont appeler ça maintenant Wagen-Volks au lieu de Volkswagen. Non, mais t'es... Ou alors DAO au lieu d'Audi, comme ça, ils vont trouver quelque chose. J'espère avoir un petit peu plus de temps, peut-être dans la deuxième partie avec mes camarades André et Michel, pour vous expliquer scientifiquement ce qu'on leur reproche à ces gens-là. Quel est le petit logiciel espion qu'ils avaient rentré dans leur moteur pour leur entourloupe, quoi, finalement. Alors, je vais les accueillir dans quelques secondes. André Étienne et Michel Audet, restez là.
Le maire m'a dit que ton cœur est brisé en morceaux, qu'il n'est plus capable d'aimer. Mais moi, mon cœur est en lambeaux. Est-ce que le maire t'a dit que l'amour ne vient pas quand on veut, qu'il arrive le jour où on est fendu en deux, le rouge sur les épaules. J'ai compté les bourgeons où j'ai crié ton prénom. J'ai planté une arête dans la ville en bouillon. Des planchers de chaudron.
Ah, c'est Philémon Simon, le petit dont on parle énormément en ce moment. Ah, ben je suis contente de l'avoir entendu. Est-ce que c'est son dernier album? Oui?
Je pense que oui, oui.
Eh bien, donc voilà, c'était Philémon Simon sur les ondes de Canal M. Et vous retrouvez tout de suite Clotilde Seille et deux voix de service déjà autour d'elle. Ce sont les voix du mardi que vous connaissez bien. André-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro, qu'on
oui,
vous
pardon,
entende, quand
pardon.
Vous dites bonjour,
ça, c'est
mon ami, on vous a à peine...
d'être loin, là, prendre un peu de recul.
C'est une petite nouvelle.
Oui, c'est ça, c'est une petite nouvelle qui débute. Et puis alors vous, ça fait quoi, deux semaines seulement? Non, ça fait combien de temps que vous
avec
faites
avec un zéro
ça
de plus.
Deux semaines. Moi, je suis dans ma 21e année ici.
21e année.
Oui, je viens des vieux de la vieille. Mais j'ai commencé très, très jeune, il hein, faut
oui.
dire.
Ah ben oui, Michel Audet, c'est... bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, dites-moi, teasez-moi un peu, de quoi sera-t-il question dans vos papiers aujourd'hui? André?
Alors, moi d'abord, c'est un article de Science et Vie qui va parler de la vision.
La vue, donc,
oui,
c'est ça.
De
hein,
la vue,
ah,
exactement.
Ben, parfait.
Parce que l'œil est d'une formidable complexité et puis il y en a plein de choses à dire là-dessus.
Ah, ben tant mieux, je suis contente.
Un autre sujet tout à fait d'actualité, c'est un article que j'ai pigé dans Le Monde d'hier. Apple qui ouvre la porte aux bloqueurs de publicité, pas aux blogueurs.
Aux bloqueurs
de publicité.
C'est-à-dire des gens qui sont capables de bloquer des pubs.
Oui,
en tout cas, vous allez
logiciels.
Nous raconter ça.
Ou des logiciels. Voilà.
OK.
Les allergies, peut-être un peu moins d'actualité pour celles qui sont liées aux arbres. Mais Milou, Garfield, c'est toute l'année. Alors, un espoir.
Bon.
Donc voilà.
Mon petit Michel.
De mon côté, je vais vous.
Eh bien, vous savez que je vous appelle mon petit Michel.
Oui, j'aime bien. Je vais vous parler d'un petit animal fort sympathique que vous connaissez, je crois, tout le monde, mais qui peut devenir très dérangeant. Vous l'avez probablement près de chez vous.
Mais c'est parce que je pense que j'ai vu la photo, mais je vais faire semblant que je ne sais pas de quoi vous parlez.
Oui.
Et puis ensuite?
Et je vous amène dans un pays dans lequel vous aurez vraiment une prise de conscience, en plus de découvrir des paysages très diversifiés, magnifiques. Restez avec nous, vous allez voir qu'est-ce qu'il en est.
Et vous avez le don et la manière de nous faire voyager, mon petit Michel. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? On va commencer avec Michel. Ça me fait penser à la fanfare pourpour. Je ne sais pas si vous connaissez la fanfare pourpour. Vous savez qu'on a une fanfare, mais pas une fanfare à majorette. Là. Je veux dire, vraiment, là, des gens, ils se sont tous d'excellents musiciens. Ils sortent leur 5e album. Là. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup... Je lance un appel à mon petit Mathieu, qui lui-même va lancer un appel à Jean-Richard. J'aimerais beaucoup qu'on se le procure, cet album-là. Et ça me fait penser à ça. Quoi. Michel, est-ce qu'on s'en va en voyage?
Je vous fais découvrir un chapardeur masqué.
Ah, non. Pour l'instant, ce n'est pas le voyage, d'accord.
Et c'est un texte, c'est tiré d'un texte de Jacques Prescott dans Nature sauvage de l'automne 2015.
Oui.
Donc, il s'agit du raton laveur, qui ressemble au gros chat sauvage d'Europe. Même si chez nous, ici, souvent, on l'appelle chat sauvage.
C'est vrai.
Mais c'est quand même différent.
Alors, et... Michel, est-ce que je peux vous interrompre?
Vous avez le droit.
Oui, mais dans le micro, ma petite chérie, parce que je voudrais qu'on vous entende. Je vous en prie.
OK, d'accord.
Oui, on peut l'appeler
On peut l'appeler chapardeur, on peut l'appeler n'importe quoi, mais pourquoi on l'appelle laveur?
Je vais vous en parler un peu plus tard.
OK, d'accord. Oui, je pose toujours tellement de questions là-dessus.
Non, je vous ferai découvrir la raison de ça. C'est très, très précis. On l'appelle le chat sauvage, c'est que les Européens francophones, ils ont donné ce nom-là quand ils sont arrivés en Amérique, ici. Parce que on en trouve en Europe, bien sûr. Mm-hmm. Et son nom anglais, c'est raccoon. Et ça vient de l'algonquin aracoum. Aracoum, qui veut dire qui gratte avec les mains.
Ah!
C'est joli, hein? Oui, et je trouve que ça le décrit bien. Oui. Et c'est, en réalité, c'est ni un chat, ni un raton, et ni même un laveur. Mais il utilise ses mains, qui sont ultra sensibles, très, très, très habilement. En fait, il est plus proche, et ça m'a étonné beaucoup, il est plus proche, par an, des ours et des pandas que des félins. Et ça n'a rien d'un rongeur. Donc, c'est pas un raton, c'est pas un laveur, et ce n'est pas un rongeur.
Bon. D'accord.
Maintenant.
Eh bien, moi, je suis pour la renomination. Est-ce que ça se dit, ça? Non, ça se dit pas. Hein? Non, ça ne doit pas se dire.
Ça sonne bien, mais ça sonne bien quand même. Hein? Ça, c'est un beau mot.
Ben, comment? Aracoun? Comment vous avez dit?
Aracouma.
Aracouma?
En algonquin.
En algonquin. Non, j'aime ça, moi. En aracouma. Oh, plouf! Il est parti.
En fait, c'est un animal qui venait du sud. Mais profitant du réchauffement climatique et du développement agricole aussi, l'espèce a rapidement progressé vers le nord et s'envahit de nouveaux territoires. Donc, le raton laveur a été introduit dans plusieurs îles, en Colombie-Britannique, en Alaska, île du Prince-Édouard, et même, étonnamment, aux Bahamas. On le retrouve, oui, c'est ça. Et on le retrouve aussi en Europe, en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Mais dans ces régions, l'espèce a tellement proliféré, à cause de l'absence de prédateurs, qu'elle a fait l'objet de programmes d'éradication.
Ah ben oui, ben ici aussi, hein, sur le Mont-Royal, hein, il faut faire attention parce que là...
On l'a vu sur ma rue, plein Montréal.
Hein. Justement, parlant de ça, on peut dire du raton laveur, que ça vous amenez ce propos-là, c'est le raton laveur, c'est certainement le plus urbain des carnivores, mais carnivores sauvages, hein. Il peut vivre facilement dans les parcs, les villes, les banlieues, à Montréal, par exemple. On en trouve beaucoup sur le Mont-Royal, mais vous savez... c'est Toronto qui est devenu la capitale nationale. On dit qu'on compte jusqu'à 55 individus par kilomètre carré.
Oh.
C'est beaucoup, hein? Capitale nationale et même capitale mondiale.
Ah oui.
Et ça s'explique par sa grande capacité d'adaptation et aussi parce qu'il est souvent nourri par les citadins.
Eh oui, mais c'est ça le problème. D'ailleurs, on est plus généreux.
Alors, il n'y a même pas besoin de fouiller.
Il mange à la main, maintenant. Sur le Mont-Royal, il mange à la main.
Absolument.
Alors, pas de bon sens. On peut dire que c'est le champion incontesté des éventreurs de sacs verts. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un animal un peu dérangeant, fouilleur de poubelles. Il s'accommode de tout ce qu'il trouve et il profite du calme de la nuit pour accomplir ses méfaits. Parce qu'il est attiré par l'odeur des aliments avariés. Particulièrement, donc l'odeur des poubelles. Et il est doté d'une dextérité prodigieuse, d'un sens du toucher très, très, très développé. Et les cinq doigts effilés de ses pattes sont bourrés de capteurs sensoriels.
Ah oui?
De sorte qu'il peut aisément, certain que plusieurs d'entre vous en avaient fait l'expérience, il peut tourner la poignée d'une porte, défaire le loquet d'un cabanon.
Jouer au piano.
Ça sonne faux. Ça sonne faux un peu, mais il peut dévisser le couvercle d'un pot de nourriture, ronger, enlever...
Il peut, lui! Alors nous, on est là, puis on essaie.
Ah, mais c'est extraordinaire! Même
avec des élastiques.
Même le couvercle d'une poubelle qui est... Il peut le défaire. Absolument. Et il fout tout par terre. Hein, au printemps et en été, le raton laveur préfère les petits animaux aquatiques aussi, aux moules, dans la nature. Là. Les écrevisses, les poissons, des grenouilles.
Ah oui.
Ah oui.
Et à la fin de l'été et en automne, il devient tout à coup, végétarien.
Ah
et,
bon?
En zone agricole, il fait des dégâts aussi dans la nature, hein, particulièrement dans les plantations de maïs. C'est un amateur de maïs. Il brise les tiges, il gruge les épis, c'est au grand homme des agriculteurs. Hein. Et il s'introduit dans les basses-cours, même à la recherche d'œufs et même de volailles. Et ça m'a étonné, la recherche de volailles.
Je pensais que c'était juste les renards.
Et même, il raffole des abeilles. Il recherche le miel. Donc, vous voyez, c'est...
Il mange le miel, mais pas les abeilles.
C'est un omnivore. Hein? Et je parle de... Bon, je réponds à la question du laveur.
Oui,
la croyance populaire veut que le raton laveur lave sa nourriture avant de la manger. Et c'est tout à fait faux. C'est tout à fait erroné. Il s'agit d'une habitude qui est liée à la recherche de nourriture plutôt qu'à l'hygiène. Donc, le fait de fouiller avec ses petites pattes. À le voir fouiller dans l'eau, tripoter la nourriture, ben, on a l'impression qu'il la lave. Et c'est faux. Donc, il n'est ni raton, ni laveur.
Ni chat.
Alors, c'est cette habitude de manipuler ses proies avant de les manger, ça a certains avantages aussi. Parce que vous avez des crapauds et certaines salamandres qui ont la peau couverte de glandes qui sécrètent des toxines. Et en frottant des amphibiens avant de les croquer, ben, ils purgent leur glande d'une grande partie de leur venin.
Oui, oui, non, je comprends. Ah,
voilà,
mais je
voilà
sais pas
pourquoi.
C'est pas,
il faut voir la tête de Clotilde.
Non, il n'y a pas un gouton.
Il peut rester là où la température est clémente, il peut rester actif toute l'année. Mais chez nous, ici, sous nos latitudes, la neige, le froid hivernal, un peu comme nous, ça l'oblige à adopter une stratégie semblable à celle de l'ours noir. Ah. Donc, c'est-à-dire qu'il va jeûner pendant tout l'hiver.
Mais où est-ce qu'ils s'installent? Ils ont des tanières?
Quoi? Ils ne construisent pas d'abri. Ils se réfugient de préférence, et certains que plusieurs l'ont déjà vu, je me rappelle l'avoir fait expert, dans un arbre. Entre autres choses. Dans un arbre creux, une souche, une caverne, il peut faire son nid dans un tuyau de drainage. Une grange, un hangar, un grenier, une cheminée, donc on peut le trouver un peu partout. Hein. Et parfois même, ils vont se regrouper comme pour se réchauffer. On a déjà compté jusqu'à 23 ratons laveurs qui partageaient le même refuge.
S'ils s'installent dans une cheminée, ils vont être réchauffés, ce ne sera pas long. Hein.
Il y a encore plusieurs choses à dire sur le raton laveur. Il communique avec ses semblables par une gamme de postures, de gestuelles.
Oui, de gestuelles.
Et certaines vocalisations aussi. On nous dit que la communication entre la mère et sa progéniture est assez fascinante. Les jeunes appellent leur mère en émettant une espèce de trille, un ronronnement, un tremblement.
Allez, faites-nous la trille du raton laveur. Parfait, bien.
C'est ça, c'est bien. Hein? Non, c'est un disque que Mathieu a mis. Ça.
Je pensais que j'avais un problème de mon côté.
Alors, la mère rassure les petits en gazouillant ou en ronronnant. Et un petit en situation de détresse lance des cris perçants et qui vont alerter la mère. Et c'est vrai pour plusieurs animaux aussi qui font cette chose-là. On nous dit que c'est un grimpeur agile. Il peut courir à plus de 26 km/h. Hein? Et traverser des cours d'eau à la nage, mais il doit craindre plusieurs grands prédateurs aussi. Alors, comme vous avez le lynx, le coyote, le loup, et même le chien. Et le grand-duc qui peut s'attaquer, on en parlait la semaine passée, des aigles.
C'est pour ça qu'il est à l'abri, finalement, là, quand il est sur le Mont-Royal.
C'est ça, tout à fait. Il est protégé.
Qui peut, tu sais, en tout cas, je ne me souviens pas avoir croisé un jaguar.
Une
jaguar, oui, quelquefois. Mais un jaguar, non, mais c'est vrai.
Il est protégé sur le Mont-Royal. Et il est souvent victime, évidemment, de piégeages et aussi de collisions.
De collision.
On la voit souvent sur
la route. Ah oui, sur la route, sur les autoroutes.
Ils ont les quatre fers en l'air, je ne sais pas pourquoi. Ils ont les petits quatre fers en l'air. Moi, ça me fait de la peine.
En fait, j'ai été étonné de savoir qu'il ne vit que 2 ou 3 ans. C'est peu, hein?
Ah, ben, il faut qu'ils en profitent.
Même en captivité.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir l'empreinte de la main d'un raton laveur.
Oh.
Lorsque c'est imprimé dans la boue, on a l'impression, vraiment, ça produit presque une émotion, parce qu'on a l'impression que c'était une main humaine.
Oui. Oh.
Tellement, c'est très, très, très joli. En fait, il fait tout avec ses mains. Hein. C'est extraordinaire. Alors, au fil des
siècles, c'est mignon. C'est quand même très joli à voir un petit raton là, avec son petit masque de...
Avec ses petits
euros, là.
Et ils sont vraiment pas farouches en ville. Hein.
Je me rappelle avoir
ouvert la porte, ils sont dans les poubelles, ils sont là, ils me regardent, il y en a 4 ou 5, avec les petits alentours, ils nous regardent.
Ben oui, mais il faut arrêter aussi de taper sur une casserole en disant à table.
Ah oui, c'est ça. Et il faut dire aussi qu'il faut faire attention parce qu'ils peuvent être porteurs de la rage.
Oui, non, je sais.
Bien que des cas de rage ne soient pas fréquents.
Non, mais quand même.
Et lorsqu'on parle de rage, il faut savoir que ça ne veut pas dire que c'est un animal qui attaque la rage.
Non, non,
au contraire, c'est un animal qui a tendance à se... Mm.
à se replier
sur lui-même. Alors, en gros, c'était le raton laveur.
Le raton laveur. Merci. Et qui avait signé
c'était
ce papier-là?
C'était Jacques Prescott et c'était dans Nature sauvage.
Alors, ma petite Andrée, c'est à vous de nous partager une lecture que vous avez faite.
Que j'ai faite sur la vue, donc.
La vue, alors, c'est
oui,
ça.
Oui, sur la vue. Hein, c'est un sujet brûlant, si on oui, peut dire, hein, ben particulièrement oui. Ce qui nous concerne ici. Et dans l'article, il disait évidemment que pour voir, par exemple, un bateau sur l'eau ou un oiseau dans le ciel, ça paraît si naturel. Qu'on en oublie que pour la plupart d'entre nous, et c'est important de préciser ça, ça cache une évidence. Bon, l'œil, c'est une formidable complexité. C'est un des organes les plus sophistiqués de notre corps humain. Même mieux que ça, c'est le sens sur lequel notre espèce se repose le plus, mais avec une participation considérable du cerveau. Puis ça, c'est important. Oui. Parce que des neurobiologistes ont mesuré que c'est 30% du cortex qui est mobilisé pour interpréter ce que l'œil voit, les formes, les couleurs, les distances. Il faut savoir quand même au passage que seuls 8% donc, du cortex sont consacrés au traitement des informations tactiles, elles, et 3% aux informations auditives. Donc, notre œil, en conclusion de ce petit passage, c'est qu'il a le don de transformer la lumière, donc les photons, en images, les pixels. On n'a pas assez de temps pour parler du cheminement de la lumière à travers ces lentilles que sont la cornée, le cristallin ou encore même le nerf optique. Mais il faut quand même mentionner le rôle des photorécepteurs que sont ce qu'on appelle les bâtonnets les cônes. Ils ont chacun une caractéristique différente, hein, particulière. Donc les bâtonnets, eux, ils détectent l'intensité de la lumière. Les cônes, ils détectent les couleurs. Mais les cônes, ils ont besoin pour fonctionner de fortes intensités lumineuses et c'est la raison pour laquelle, dans la pénombre, on voit mal, parce qu'ils n'ont pas une intensité lumineuse suffisamment. Bon, rapidement, on peut dire que l'œil, c'est lui qui perçoit, mais c'est le cerveau et son cortex visuel qui donnent du sens aux images. Alors, plein de questions, évidemment, nous viennent à l'esprit. Par exemple, à savoir si le cortex visuel du cerveau est si important pour une bonne vision, le développement du cortex visuel pourrait-il être mis en cause chez les aveugles?
Il y a une question qui me vient à l'esprit, je me suis toujours posée.
C'est ça?
Les aveugles, est-ce qu'ils font des rêves? Et si oui, quelles sortes de rêves ils font?
Ah bon, ben d'accord. Alors là, j'allais vous donner des informations pour savoir ce qui se passait, mais je vais répondre à votre question tout de suite. Bon, on n'imagine pas qu'on puisse rêver sans voir défiler une multitude d'images au point de se réveiller. Hein? Donc on est d'accord avec ça. On sait depuis longtemps que les rêves, ils reflètent les impressions qu'on a emmagasinées dans notre subconscient. Bon, les aveugles, ils n'ont de naissance particulièrement, ils n'ont jamais perçu d'image de leur vie. Leur cerveau, donc, ne dispose pas de données qui leur permettent de construire un scénario qui vont se reproduire dans la nuit.
Ben, du moins, ceux qui sont aveugles de naissance.
Oui, on parle des aveugles de naissance, oui, là. Hein, oui. Parce que, justement, dans l'article, ils disent que les personnes qui ont perdu la vue après leur 7e année rêvent encore en images. Mais par contre, les aveugles de naissance, ils décrivent un environnement onirique qui est très sonore, par exemple. Hein. Les rêves des sourds de naissance, par contre, eux, contiennent souvent des couleurs très vives. Et donc, si vous voulez, ils expliquent ça parce qu'ils disent que le cerveau élabore les rêves en fonction des sens qui lui transmettent les informations. Et il ne peut pas inventer des perceptions qu'il n'a jamais connues. Ce qu'il fait, le cerveau, c'est qu'il va piocher dans le stock de représentations qu'il a eues dans la journée pour créer des images mentales et construire des rêves. Et chez les aveugles, comme chez les autres. Alors, comme ils n'ont pas la vue, ils construisent leurs rêves à partir de sensations sonores, tactiles et même gustatives. Et ce, même s'ils disposent d'un cortex visuel.
D'accord.
Ce que je voulais vous dire donc, tout à l'heure, c'était en ce qui concerne le cortex visuel. Je vous ai dit tout à l'heure la participation importante du cerveau pour la vue. Bon, eh bien, il faut savoir qu'une équipe internationale de neurobiologistes a montré, à partir d'observations à base de résonance magnétique, que les aveugles de naissance possèdent un cortex visuel développé, et mieux, celui-ci organise la perception topographique de l'espace, c'est-à-dire le haut, le bas, la gauche, ouais, la droite, comme chez les voyants. Hein, on parle des aveugles de naissance, hein, mm-hmm, et cela donc sans aucune expérience visuelle réelle.
Et c'est pour ça qu'ils se déplacent relativement, ben, relativement. Ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir, de se faire leur propre balise. Enfin,
probablement.
C'est ce dont j'ai
Je
ne
sais pas
parlé.
Ce qu'il en est en ce qui concerne leur capacité, mm-hmm, à se déplacer, mm-hmm, sans trop de difficultés. Je suis toujours ahurie d'aller voir se déplacer. Mais par contre, ce qu'ils disent là dans l'article concernant donc ce développement du cortex visuel, même s'ils ne l'utilisent pas, ils disent que la découverte laisse supposer qu'une partie de la connectivité du cortex visuel serait dépendante de processus génétiques et donc innés. Mais reste à comprendre l'origine de ce développement. Ça, c'est vraiment... quelque chose d'important.
Mais est-ce qu'il existe des parce qu'on parle des droitiers et des gauchers en ce qui concerne les mains, etc. Mais au niveau des yeux, est-ce qu'il y a un œil qui
c'est vrai, oui,
ma question est, mais pourquoi
un œil dominant?
Un œil dominant.
Voilà, exactement. Exactement. Alors ça fait partie des multiples questions qu'on peut poser effectivement. Et normalement, sauf si on est ambidextre. Je les vois qui se moquent tous de
non,
moi.
Pas du
non,
tout.
Non, absolument pas.
Ah, mais non, André, c'est parce que je cherchais le mot, puis monsieur ouvre son micro.
Et puis il le donne, un œil dominant.
Alors là,
voilà.
Je lui fais.
Bon, ben, il est bon, Mathieu, parce que c'est effectivement vrai qu'il existe un œil dominant. Parce que c'est intéressant. Si on fait l'expérience pour savoir s'il existe ou pas un œil dominant, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on. On met quelqu'un devant une lunette astronomique et on observe spontanément avec quel œil il va regarder. Il y a juste une seule possibilité. Hein. Donc, tout de suite, on peut décider, voir si la personne en question est de gauche ou de droite. On ne parle pas de politique. Hein.
Non,
et gaucher
ça.
Ou droitier.
Oui, d'accord. Oui.
Donc, c'est l'œil dominant, exactement comme disait Mathieu tout à l'heure.
D'accord.
Donc, ça, c'est important à savoir aussi. Donc, ce qu'il y a aussi, je voulais vous parler d'autres aspects. Je suis en train de chercher quelque chose, voilà. Ah voilà, je voulais vous parler du rôle des larmes, parce qu'il y a beaucoup d'articles sur lesquels j'aurais pu parler longtemps, mais je vais vous parler du rôle des larmes parce qu'il est vraiment
c'est
important.
C'est utile, hein?
C'est absolument utile, c'est même presque indispensable. Parce que, par exemple, parfois, nos yeux, ils s'embuent, mais c'est pour protéger, par exemple, comme au réveil. Il faut humidifier les yeux pour garantir la transparence du cristallin. Mm-hmm. C'est la lentille qui concentre les images sur la rétine. En plus, les larmes, elles protègent nos yeux des infections parce qu'elles contiennent une substance lubrificatrice et antibactérienne et aussi des anticorps. Elles sont alimentaires puisqu'elles apportent des nutriments et l'oxygène aux cellules de la cornée qui est non vascularisé. Alors, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, vous savez que quand on pleure sous le coup d'un chagrin, mm-hmm, ou d'une force, à force de rire, la science s'avoue incapable de répondre pourquoi et comment. On peut expliquer pourquoi, par exemple, quand on a trop de liquide lacrymal dans les yeux, il va traverser par un canal qui va des yeux au nez, à ce moment-là. Oui. Mais pourquoi, quand on a une émotion quelconque, ou rire ou tristesse, il y a une seule certitude, c'est que cette larme-là, elle contient des hormones à base de protéines, ça s'appelle l'encéphaline, et c'est un analgésique sécrété en cas de stress qui est absent des larmes réflexes. Les larmes réflexes sont celles que l'on
a
constamment. Alors attendez, j'avais noté quelque chose d'important.
Mais alors
aussi.
Ça, c'est intéressant. Ça. Donc la science ne peut pas répondre
non.
à cette,
non.
À cette question-là.
Non,
ah, bah,
pas
alors,
dire
ah, bah, là,
si
on
pourquoi
quelque chose.
Quand on rit ou quand on a un grand chagrin, on pleure.
Est-ce que c'est la glande lacrymale qui s'ouvrirait automatiquement? Je ne sais pas.
Ils disent dans l'article, hein, en tout cas. Puis c'est que vraiment, on n'est pas capable de répondre à cette question-là.
Mais tout le monde n'a pas la même quantité de larmes. Tout le monde n'a pas
Oui,
il y a des gens
mais
qui
c'est
pleurent
surtout,
moins.
C'est surtout ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que dépendamment de ce qui sous-tend la larme, On est capable de dire ce qui se passe, si c'est un surplus, parce que les larmes coulent à raison de 0,1 millilitre par heure. Et si on augmente cette quantité-là, comme ça se passe quand on a un rhume, à ce moment-là, ça va être dégagé à travers, par un lacal à travers le nez.
D'accord,
mais quand c'est une émotion qui provoque les larmes, on ne sait pas comment ça se passe, quel est le mécanisme de fonctionnement qui fait qu'on pleure.
Là, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que je pense aux comédiens qui sont capables de pleurer à la demande, comme ça. Oui, mais justement, alors c'est peut-être pour ça que finalement, ça n'a rien à voir avec une vraie émotion. Parce que là, il se crée l'émotion pour parvenir à pleurer.
Je ne sais pas si... Moi, je me suis souvent posé la question dans les films. Je me dis, comment est-ce qu'ils arrivent à pleurer? Ils doivent leur mettre un petit grain de...
Il y a d'autres techniques aussi.
Oui, c'est sûr qu'on leur met des gouttes aussi dans les yeux. Mais il y a aussi beaucoup de comédiens qui sont absolument capables de pleurer.
Ça serait intéressant si vous connaissez des comédiens, Clotilde, de poser la question, comment ils font pour pleurer juste au moment où il faut pleurer.
À chaque fois que j'aurais posé la question, ils me disent tous la même chose. Ils se reportent à une émotion qu'ils ont déjà rencontrée.
Ah, ils revivent quelque chose qu'ils ont déjà vécu.
Oui, ils se reconcentrent. Mes amis, nous n'avons plus que 15 secondes, mais pour cette partie-là, mais on va se retrouver en seconde partie, et donc on va pouvoir continuer.
Juste, je veux vous dire que c'est 10 15 secondes. Fois par minute que 10 notre œil cligne.
OK.
Et moins de 10 secondes. Hein.
D'accord. Merci beaucoup. Et c'est dans Science et Vie que vous avez trouvé ça.
Ah oui, c'est dans Science et Vie que j'ai trouvé ça.
Alors, on y va, mes amis, ils sont restés, ils sont tous là, André et Michel. Et puis, évidemment, on jase parce qu'on se demande comment ça va se passer, puis tout ça. Et quand même, vous savez, ça demande beaucoup de préparation. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier, d'ailleurs, tous les collaborateurs qui viennent ici à chaque semaine, à tous les jours, parce que c'est souvent un casse-tête pour trouver le bon papier, être sûr qu'il n'y a pas personne d'autre qu'on a déjà parlé. Et puis, souvent, il faut le couper parce qu'il est trop long. Alors, vous savez, c'est pas... on arrive là, puis on feuillette un journal et puis on se lance là. Ce sont des gens qui travaillent très fort, bénévolement, faut-il le rappeler. Et comme ça, ça me donne l'occasion de pouvoir vous remercier, vous, André et Michel, mais aussi tous ceux qui se joignent à moi et qui le faisaient avant à l'émission Kiosque Magazine, parfois depuis plus de 20 ans, comme c'est le cas de Michel. Michel Audet, qui va nous amener...
En Afrique du Sud.
Mon ami Mathieu vient de poser une question fort intéressante pendant la musique. Mathieu?
Oui. La semaine dernière, Michel nous a dit que qu'il allait amener son ukulélé. Où est-il?
Ah oui, c'est vrai!
J'ai oublié Hawaï.
Il est parti juste en fin de semaine à Hawaï.
Ça se place bien dans une conversation.
Il est en plein concert et je l'ai totalement oublié là-bas.
Mais ce n'est pas à Hawaï que vous nous amenez, alors,
ce matin. Non, je vous amène en Afrique du Sud. Et c'est tiré d'un texte de Pierre-Olivier Fortin. C'était dans le Journal de Montréal. Mm-hmm. C'était en janvier 2015. Et ça s'appelle « Pour les yeux et la conscience ». Et je trouve que le titre parle par lui-même. Donc, dans ce pays, l'Afrique du Sud, l'émerveillement, ça vient vraiment avec une prise de conscience. Parce que ça arrive particulièrement en visitant le musée de l'apartheid à Johannesburg, qui est la métropole. Il faut savoir que de 1948 à 1994, c'est pas très loin, les Noirs qui étaient arrivés massivement dans Johannesburg pour travailler dans les mines ont été relégués au rang de sous-peuple.
Ah,
on connaît bien l'histoire.
Malheureusement.
Il y a eu la révolte sanglante, le combat pacifique de Mandela, dont on a beaucoup parlé, le combat pour la paix, pour l'égalité, pour l'espoir. L'Afrique du Sud, c'est un pays riche, mais encore aujourd'hui, très inégal.
Mm-hmm.
Alors, un exemple de ça, c'est Soweto. Quand on se promène dans Soweto, Soweto, c'est un grand bidonville. Mmh. C'est peut-être le bidonville le plus connu, en fait.
Mais on peut y aller quand même, c'est pas...
On peut aller visiter Soweto en étant accompagné d'un guide, bien sûr, et on s'y sent en sécurité. Et ce qui frappe, ce sont les rues bondées de gens qui sont fiers, qui sont souriants, qui sont accueillants.
Mmh.
De mon côté, je dois vous dire que je me trouve un peu voyeur à faire ces choses-là.
Ah oui, je peux comprendre.
Je ne peux pas dire que je suis très à l'aise dans cette chose-là. Ça a été, c'est un bidonville qui a été créé par les Blancs quand même. C'est en périphérie de Johannesburg. Vous avez des cabanes de tôle qui s'étendent dans un amas de détritus. Ah, oui. Et à côté, vous avez un boucher qui est en train de découper un bœuf en pleine place. Et ce qui frappe beaucoup aussi, particulièrement à Johannesburg, mais partout, c'est de voir les maisons des riches, mais très riches, et des bidonvilles juste de l'autre côté de la rue.
Et
je vais vous dire, ceux qui sont les plus prisonniers, je vous dirais que c'est les riches. C'est parce qu'ils entourent leurs maisons de barbelés et même de gardes de sécurité.
Oh,
mais oui, étonnant, hein? Ça. J'ai une amie qui a vécu, dont le frère vit en Afrique du Sud, et puis elle m'expliquait qu'en fait, il vit entouré de murs. Il regarde la télévision avec son Colt sur l'accoudoir de son fauteuil.
Oui.
Mais c'est pas une qualité de vie.
Donc, vous avez encore,
comme disait Michel, on se demande qui est
encore une forme de ségrégation. Okay. C'est très, très clair.
Mais dans les bidonvilles, c'est noir.
Oui, tout à fait.
À 100%. Oui, je veux dire, il n'y a pas de blancs du tout qui font partie des pauvres en Afrique du Sud. C'est une question que je ne sais pas.
Oui, tout à fait. Et au nord-est de Johannesburg, vous avez ce qu'on appelle la panorama route, la route panoramique, qui c'est vraiment un émerveillement. Vous avez des grandes chutes, des falaises. Vous avez, à 900 mètres au-dessus de la forêt luxuriante, on voit jusqu'au Mozambique.
Ah oui.
Mozambique, qui est le pays voisin, du côté est, qui longe la mer. Et vous avez la nature découpée de la roche, la rivière, les falaises en forme arrondie, brutale. Et vous avez un canyon, ce qu'on appelle le canyon de la rivière Blyde, et on l'appelle l'autre grand canyon. J'aime pas beaucoup dans la vie ces comparaisons-là. Je trouve souvent que c'est un peu boiteux, comme quand on parle de la Venise du Nord ou autre chose.
C'est vrai. Pas beau.
Au nord du pays,
pas le climat avec.
Vous avez un parc qui est très connu, un des plus connus en Afrique du Sud, qui est le parc Kruger.
On peut y faire des safaris?
Ah, tout à fait. C'est une expérience inoubliable en safari. En peu de jours, dans 4 ou 5 jours, on peut réussir à avoir des zèbres, des crocodiles, lions, girafes, hippopotames, éléphants. Vous allez voir souvent très proche, parfois loin aussi.
Ben oui.
N'oubliez pas que les animaux ne sont pas...
C'est comme les baleines.
C'est comme les baleines à Tadoussac. J'ai fait l'expérience cet été.
On peut être très chanceux, vous savez. Ils peuvent venir très, très rapprochés. Et cependant, ce n'est pas le même safari que vous allez avoir dans les grands parcs nationaux de Kenya ou de Tanzanie. Ce qu'on voit ordinairement, les reportages, ça vient du Kenya et de la Tanzanie la plupart du temps.
Ouais.
Mais c'est un safari très intéressant et moins coûteux, cependant, que ce que vous allez avoir au Kenya.
Le Kenya, c'est le pays voisin, je pense qu'ils sont...
Non, le Kenya est beaucoup plus au nord.
Et beaucoup plus au nord?
Oui,
c'est lequel pays qui est limitrophe au nord avec l'Afrique du Sud?
Vous avez Zimbabwe.
Ah, c'est peut-être ça. En tout
Zimbabwe, le Botswana.
Je ne suis pas très...
Botswana, Zambie, je vous parlerai de ces places-là.
Oui.
Zimbabwe particulièrement des beaux souvenirs au Zimbabwe. Vous avez une ville qui s'appelle le Cap, qui est Cape Town en anglais, qui est près des montagnes de Drakensberg. C'est un mur de pierre quand même de 1 kilomètre de haut. Et c'est une ville très particulière. Vous avez le Garden Route. Évidemment, les noms sont en anglais. C'est bien sûr. Vous vous émerveillez devant le lagon bleu. Vous avez des baleines aussi. Il y a plein de choses en Afrique du Sud.
Est-ce que c'est là qu'est le Cap de Bonne-Espérance?
Non, le Cap de Bonne-Espérance, c'est la pointe australe.
C'est la pointe australe,
le plus au sud, tout à fait au sud. Très venteux, le Cap de Bonne-Espérance. Et vous avez trouvé plein de singes dans le Cap de Bonne-Espérance.
Ah, ouais, mais ça n'a rien à voir avec le Cap. C'est pour ça que je faisais le lien. Moi,
c'est très, très, très venteux. Vous avez vraiment... Vous êtes au bout du monde quand vous arrivez au Cap de Bonne-Espérance. Il faut peut-être savoir que ce sont les Hollandais qui ont débarqué au Cap en 1652. C'est une région qui est plus riche, l'architecture est plus typée, plus soignée. Les tensions raciales, on nous dit, moins évidentes qu'ailleurs dans le pays, c'est vrai. Atmosphère détendue, je mets un petit bémol cependant, parce que je me rappelle d'être entré dans un bar et on nous demandait de déposer nos armes avant d'entrer.
Armes?
C'est détendu.
Mais vous aviez des armes?
Non, mais...
Il y en avait.
Il y a une affiche en disant « Déposez vos armes au vestiaire ». Assez
incroyable.
Particulier. La cité est quand même... très européenne. Et en faisant un tour de ville, on passe devant le quartier des esclaves malais. affranchie. Mm. Et c'est célèbre pour ces maisons avec des couleurs très, 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 très vives. Et on aperçoit l'hôtel de ville devant lequel Mandela a soulevé les foules, évidemment. Et pour mieux connaître Mandela, après avoir visité sa maison, qui est toujours dans Soweto, il y a une excursion à l'île un peu malheureuse, ce qu'on appelle l'île prison de Robben Island.
Oui.
Robben Island, c'est la ville où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans.
Oui, oui.
Dans une cellule qu'on nous montre, c'est assez pathétique, très, très petite cellule. Et d'ailleurs, les guides sont tous d'ex-prisonniers politiques.
Ah oui?
La plupart qui étaient là avec Mandela, avec Madiba. Et en apercevant cette cellule, on ne peut pas faire autrement que de s'émouvoir devant l'ampleur du sacrifice Mandela. Vous avez, au Cap, j'en ai pas parlé, vous avez la montagne de la table. Et c'est peut-être de point de vue qu'on connaît le vieux Table Mountain.
Okay.
Parce que c'est tout à fait plat, en arrière-plan. Et les paysages sont magnifiques du haut de la montagne si vous réussissez à y aller, parce que c'est souvent dans le brouillard ou dans les nuages.
C'est ça.
De sorte qu'il y a un téléphérique qui va à cet endroit-là. Et vous avez un petit animal qu'on trouve qui est merveilleux sur le dessus. J'ai oublié le nom, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je pense qu'il s'appelle l'Irax.
Ah.
Un petit animal, un petit rongeur qui est partout.
C'est pas à Carcoma?
C'est pas un raton laveur, ça je peux vous dire. Hein? C'est
non.
un raton laveur. Et vous avez, aussitôt que vous sortez du Cap, vous avez les vignes de Stellenbosch. Et ça, c'est vraiment un paysage absolument
magnifique. Oui, parce que les vins d'Afrique du Sud sont bons.
Oui,
hein?
oui, tout à fait. Mais malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vin. On a peu de vin à la Société des alcools d'Afrique du Sud.
Oui.
Je sais qu'il y a Fleur du Cap, entre autres.
Il y en a quelques-uns, quand
oui,
même.
Oui, quand même, oui.
On en a quasiment plus que les vins produits au Québec, alors. Non, mais c'est fou, pareil.
Vous parlez du Cap de Bonne-Espérance. J'ai le temps pour une très, très petite anecdote.
Oui.
J'étais avec des Français à ce moment-là, lorsque j'ai fait le tour du Cap de Bonne-Espérance. Et comme vous êtes rendu au bout de la terre, évidemment, si vous voulez vous sustenter, c'est sandwich, coca, des choses semblables, c'est très, très cher, hein? Parce que vous avez pas, vous êtes au bout du monde.
Un
sandwich, c'est 12 ou 15 $. Alors, la dame qui était à mes côtés, qui avait son sandwich à 12 ou 15 $, qui disait comment c'était trop cher et tout ça. Et tout à coup, boum, il y a un babouin qui passe et qui s'empare du sandwich et ça sauve avec le sandwich. Tout à fait. Et il faut surveiller continuellement.
Hein. Cher ou pas, lui, allez hop là.
Donc, un peu plus tard, parce que je pense que notre temps est écoulé, c'est suffisant.
Oui.
Je reviendrai en bref avec deux pays qu'on trouve à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et c'est très, très peu connu.
Merci beaucoup, Michel. C'est donc dans le Journal de Montréal que vous aviez trouvé ça.
Oui, c'est ça, le Journal de Montréal.
Redonnez-moi
c'était Pierre-Olivier Fortin qui en parlait.
Merci.
Bon, bien moi, je vous amène dans un voyage complètement différent. C'est un voyage techno.
Oh!
Puisque j'ai trouvé cet article dans le monde économique d'hier.
Mm-hmm.
Et l'article est intitulé tel que « Apple ouvre la porte aux bloqueurs de publicité ». C'est un article qui a été écrit par Damien Gouteux et Alexis Delcambre. Alors, donc, ça commence... Moi, je vous avoue, je n'avais rien entendu de tout ça. Hein. Je savais qu'il y avait un nouveau système d'exploitation, mais je n'avais pas entendu parler de ça. Et ça, c'était le jour qu'attendaient avec appréhension les secteurs des médias et de la publicité. C'était mercredi le 16 septembre que Apple a livré aux utilisateurs du iPhone la dernière version de son système d'exploitation iOS 9.
Oui, effectivement.
Hein, tout le monde en a parlé de ça.
Ouais.
Mais ce système d'exploitation, cette nouvelle version, elle propose une petite nouveauté, mais qui soulève de grandes questions. Parce que elle donne la possibilité d'activer des applications qui bloquent la publicité sur les sites Internet visités avec le navigateur de Safari, qui est proposé par défaut dans les terminaux d'Apple. Alors, vous imaginez que c'est toute une problématique en perspective. Parce que, bon...
Alors, oui, parce que la pub, ben, c'est ce qui fait vivre le web.
Exactement.
Donc, si vous enlevez la pub, qu'est-ce qui va faire vivre le web?
Ben, c'est ça. Et c'est important parce que ces bloqueurs de publicité, même actuellement, on les appelle des adblocks. Mm-hmm. Ils sont déjà très populaires sur les ordinateurs sous la forme d'extensions aux navigateurs.
Ouais.
Et ils permettent donc aux utilisateurs de filtrer les publicités et les traceurs de données présents sur les pages web. Alors bon, s'ils accélèrent le chargement des pages et qu'ils limitent la captation de données personnelles, ça améliore quand même l'expérience utilisateur. Comme vous disiez, Clotilde, il menace le modèle de financement par la publicité.
Incroyable.
Ah bah oui. C'est incroyable, hein? Et il menace aussi le développement à venir de nombreux sites. Bon, à l'origine, cantonnés aux utilisateurs les plus agiles, les adblocks semblent actuellement toucher un public très large. Bon, l'arrivée des adblocks sur les téléphones, sur les tablettes, représente une nouvelle étape dans le développement Apple. Et vendredi, le 18 septembre, donc vendredi dernier, deux bloqueurs de publicité figuraient déjà en tête du classement des applications payantes les plus téléchargées en France sur l'Apple Store.
Ben oui, tu
m'étonnes. Parce que le jour où on n'aurait plus de publicité, on ne pourrait plus avoir, par exemple, nos journaux, la presse ou autre, gratuitement.
Ben non.
Mais c'est ça, entre autres. Absolument.
Ben voilà, c'est ça. Alors, la menace pour l'édifice du web, là, vous posiez la question tout à l'heure, Clotilde, c'est que la véritable ampleur du blocage de publicité sur Internet, elle reste à établir.
Ouais.
C'est pas encore vraiment... On a un rapport qui a été publié en 2014 par une société irlandaise qui s'appelle Pagefair, et il y aurait à l'heure actuelle plus de 144 millions d'utilisateurs de bloqueurs de publicité dans le monde.
Oh,
144 millions d'utilisateurs de bloqueurs de publicité dans le monde.
C'est donc pas nouveau,
c'est un article quand même, je vous signale, du journal Le Monde. Donc, j'ai pas vérifié les données.
On peut s'imaginer que dans Le Monde...
Dans Le Monde, c'est quand même sérieux comme information.
Ouais,
hein.
Ouais.
Moi, j'étais complètement sidérée quand je lisais ça. Et ce qui est même aussi intéressant comme information qu'ils donnent, c'est qu'ils disent que 41% donc de ces utilisateurs auraient moins de 30 ans. Ça veut dire que toute la génération à venir, ils savent comment on s'occupe de bloquer les publicités. Hein. Et ce nombre serait en forte croissance. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, pour certains, ils disent que la pratique menace évidemment l'édifice du web qui est bâti en large partie sur la gratuité des contenus et le financement par la publicité.
Mmh.
Et un des rédacteurs du rapport pense que ce type de logiciel fera aussi mal à l'industrie publicitaire qu'un autre logiciel qui s'appelait Napster. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Oui, je me souviens, oui.
Hein, il avait fait quand même vraiment beaucoup de tort au major musical en permettant le téléchargement frauduleux de fichiers musicaux entre 1999 et 2001. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que ces Adblock Plus disposent d'une liste blanche. C'est entre guillemets hein, dans l'article. Hein.
Mm-hmm.
Et dans laquelle figurent des sites et des services qui sont épargnés par le blocage. L'inscription sur cette liste, vous imaginez qu'elle n'est pas gratuite ? Elle est payante. Plusieurs millions pour un géant comme Google, selon Pagefair. Plusieurs médias allemands ont porté plainte contre une autre société qui s'appelle AO, mais les plaignants ont été déboutés en mai 2015. Et selon le site iGénération, AO tente désormais de convaincre les développeurs d'Adblock, donc ces bloqueurs de publicité concurrents, d'intégrer sa liste blanche contre rémunération. L'arrivée des bloqueurs de publicité, c'est la dernière étape dans un vaste débat qui est ouvert depuis des années sur les pratiques de l'industrie et de l'industrie de la publicité et l'éthique des bloqueurs. Par exemple, vendredi le 18 septembre, le créateur d'une application qui s'appelle Peace, le bloqueur de publicité le plus vendu sur iOS, a retiré son logiciel de la vente en citant, entre guillemets, un cas de conscience. Autre cofondateur a expliqué ne pas vouloir s'engager dans une guerre et qu'une lutte efficace contre les excès de la publicité en ligne nécessitait une approche plus nuancée et complexe que celle d'une simple application iOS.
Autrement dit, Apple essaie de nous vendre du vent quelque part, parce que En tout cas, là, oui. si on croit ce monsieur Marco Amand, là, qui est de Tumblr, là, bon, finalement, lui, ce qu'il explique, c'est que c'est vraiment...
Oui,
c'est du vent, quoi, je veux dire. Mais... C'est, enfin, bon.
Bah, parce que, en tout cas, moi, je suis encore allée ce matin sur mon iPad.
Oui.
Et j'avais quand même beaucoup, beaucoup de publicité.
Oui, oui, hein. Oui, oui, absolument.
Donc,
c'est sûr.
Peut-être que je n'ai pas iOS 9,
oui.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même un phénomène qui est important parce que qu'est-ce qu'on ferait maintenant sans Internet?
Non, c'est sûr. Mais la question que je me posais, c'est que est-ce que Apple n'est pas en train d'essayer de nous vendre une bébelle qui va nous faire paraître important parce qu'on va pouvoir bloquer de la pub? En tout cas, c'est ce que semble dire Monsieur Armand. Mais que, pour lutter contre les excès de la pub, il faudrait une approche beaucoup plus nuancée puis complexe. Exactement. Qu'une simple application iOS ou iOS. Quoi.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression qu'ils sont en train là, de nous vendre qu'on est bien puissant face à la publicité, tu parles.
Donc, Par contre, quand même, ce qu'il y a, c'est qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une bataille sur la régie publicitaire numérique. Hein, parce qu'il y en a une qui se joue quand même directement entre les médias et les géants du web, comme Apple, voire entre celle-ci et Google.
Oui, oui.
Depuis longtemps, on sait que c'est comme la guerre entre... Apple et Google, hein.
Mais enfin, écoute, imaginez-vous tous les gens qui retiraient leur pub.
Mais c'est fou, hein. C'est fou, hein.
Et c'est sûr qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées puis à court terme parce que.
Ben c'est ça.
Sinon, ça saute, quoi.
Parce qu'en encourageant le développement donc de ces adblocks, Apple semble vouloir pousser les médias vers une autre nouveauté de son système d'exploitation. Parce qu'il a un système d'exploitation qui lui est propre, qui s'appelle News. Et cette application, elle est alimentée par des médias partenaires qui proposent leur contenu à Apple. Et ces derniers peuvent être accompagnés de publicités que News ne permet pas de bloquer, hasard.
Voilà, c'est ça. Écoute, il fallait qu'il y ait une carotte au bout pour faire avancer l'âne, c'est certain.
Ce que dit l'article, il dit « Si c'est le média qui vend directement cet espace à un annonceur, il touche 100% de son prix de vente. Sinon, Apple se charge de le vendre en empochant au passage 30%.
Oui. Bah tiens.
Hein? Mais quand même, les conditions sont intéressantes parce qu'elles ont déjà convaincu une trentaine de médias américains non négligeables. CNN, par exemple,
oui.
Time, Vox Media, qui ont déjà rejoint News. Alors, Apple espère bien centraliser dans News l'accès des utilisateurs à l'information, quitte à assécher en attendant des médias qui dépendent, eux, à des degrés divers de la publicité. Alors, je vous rappelle que tout ceci, ce n'est pas des élucubrations personnelles, c'est un article du Monde qui est paru exactement le 21-9, c'est-à-dire hier, dans la presse.
Merci, André. Mes amis, avez-vous des petites brèves pour nous?
Oui, j'aurais un petit complément sur mon raton laveur.
Ah!
Je ne sais pas si vous connaissez, vous autres, ce qu'on appelait ici le capot de chat. Ce n'est peut-être pas nécessairement de votre génération.
De la génération, oui, mais est-ce que nous étions déjà arrivés?
Ben, c'est ça, c'est ce que je ne sais pas. Parce qu'on avait, nous autres, c'était très populaire ici, le capot de chat. C'était un manteau fait en... C'est une fourrure c'est très chaud, hein? Alors, tout le monde avait son capot de chat à l'époque. Mais on l'utilise encore dans la fabrication, le raton laveur, de paletots et de chapeaux. Et vous aviez le fameux couvre-chef, peut-être que vous avez déjà vu, de Davy Crockett.
Oui. Avec la petite queue derrière.
Avec
la queue
derrière.
De raton laveur, d'ailleurs.
Ah ben, c'était fait d'une peau de raton laveur qui mettait en évidence le masque, la queue de l'animal. Et on nous dit qu'il y a uniquement au Québec plus de 14 200 ratons laveurs ont été trappés en 2012-2013.
Ah là là.
Dans une population en constante expansion. On nous dit qu'en Ontario, la population avoisine 1 million d'individus. Hein?
ben moi, j'en ai une petite brève dont je tenais absolument à vous parler, puisque vous avez déjà entendu que notre pape François se promène à Cuba. Mm-hmm. Eh bien, à l'heure actuelle, maintenant, comme il ne prend pas beaucoup de vacances, il ne va plus à Castel Gandolfo, et il a décidé qu'il veut faire un geste généreux pour qu'on puisse visiter donc, les lieux Castel Gandolfo, puisqu'il n'y va plus. Alors, il y a un train maintenant.
Qui était son lieu de villégiature,
vacances.
C'est ça?
C'était un lieu de villégiature de tous les papes, puis ils allaient tous là-bas, mais François, il n'a pas le temps, il est trop occupé.
Son chalet.
Voilà, c'était son chalet. Alors donc maintenant, le train du pape va emmener les touristes à sa résidence d'été. Oui. La gare du Vatican reprend du service. Et alors, il y a différentes possibilités pour y aller, différents coûts pour profiter. Soit on profite de la visite guidée dans le village, qui est très content de cette reprise de fonctionnement du train. Donc ça, c'est une formule à 40 euros qui permet aux touristes de se présenter à 8 heures au musée du Vatican pour visiter sans faire la queue, les nombreuses collections ainsi que la chapelle Sixtine, et traverser à pied les jardins du Vatican, ou sinon 16 euros sans la visite. Mais je veux vous présenter juste vite une exposition à Montréal.
Pas tout de suite.
Non? Bon, bah, d'accord. On se dispute, Michel et moi, pour vous parler.
Moi,
je veux compléter parce qu'on parlait de la chapelle Sixtine. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a en ce moment à Montréal une exposition, vous en avez peut-être entendu parler ou pas, mais je l'ai vue. C'est une exposition sur la chapelle Sixtine. Vous retrouverez les fresques grandeur nature présentées.
Une merveille.
Même le toit, vous vous cassez le cou pour les regarder. Il y a un audio guide intéressant, c'est au Palais des Congrès.
Ah, l'audio guide est bien alors.
L'audio guide est bien, parfait. Il est un petit peu long, mais il est bien documenté.
Bon, parfait.
Vous pouvez même télécharger sur vos téléphones intelligents l'audio guide en question si vous préférez la formule. C'est gratuit de toute façon, que vous utilisiez ou non l'audio guide.
Merci.
Donc cette exposition, je vous la recommande vivement.
C'est
vous la verrez
où,
mieux
c'est,
qu'à...
C'est où déjà, vite fait?
C'est au Palais des Congrès,
Palais
c'est
des
jusqu'au
Congrès.
18 octobre.
D'accord, merci beaucoup. André, il y a deux pays dans un pays, Michel, pardon, il y a deux pays dans un pays?
Oui, tout à fait. Lorsque vous êtes en Afrique du Sud, il y a deux petits pays qui s'appellent le Lesotho.
Ah bah oui, c'est vrai, bien sûr.
Lesotho, en anglais. Lorsque je leur ai dit que je voulais aller au Lesotho, ils ne comprenaient rien. C'est Lesotho.
Oui.
Et vous avez aussi le Swaziland.
Ben oui.
Swaziland, c'est tout petit, hein. C'est un pays de 2 millions et 1,4 million d'habitants. C'est vraiment une enclave à l'intérieur. Le Lesotho, c'est avant le Basutoland, parce que beaucoup de ces pays-là ont changé de nom. Hein. Et vous avez la menace par les Boers, qui étaient des colons néerlandais qui venaient d'Afrique du Sud. C'est un pays de montagnes, au-delà de 1300 mètres. Et sa richesse, c'est l'eau. Et vous avez le Swaziland. Swaziland, ce qui est particulier, c'est, entre autres choses, les rois, la monarchie.
Ah,
des rois qui se sont succédés. Mais c'est véritablement... véritablement des rois. Hein. Ce sont des pays de montagne, de savane, de forêt tropicale, production agricole aussi. Et étonnamment, la religion, c'est le christianisme.
Ah.
Et je ne peux pas oublier la capitale parce que j'ai eu un accueil très, très, très particulier qui s'appelle Baban. Est-ce que j'ai le temps pour dire un mot?
Vous avez une minute, mon ami. Moins 15 secondes pour qu'on se dise au revoir.
J'ai eu le droit à une haie d'honneur en allant à Baman. Je suis rentré dans un magasin pour acheter une bouteille d'eau et lorsque je suis sorti, il y avait une haie d'honneur de noir qui était là pour m'insulter.
Oui, pour vous insulter?
Oui, et lorsqu'on dit que maintenant l'apartheid s'est terminé, attention.
Oh, mais il vous insultait pourquoi?
Pour me provoquer. Simplement.
Ah, oui.
M'a provoqué parce que j'étais un blanc dans leur, pays. J'ai eu...
Remarquez, j'y goûte aussi. Hein.
Un des seuls endroits où j'ai eu très peur. Probablement que ce serait bien.
Non, je comprends.
Et c'était à Baban, au Swaziland.
Merci beaucoup à vous deux pour ces voyages, pour toutes ces informations fort utiles, ma foi, qu'elles soient animalières ou qu'elles soient technologiques. J'ai été vraiment ravie que vous m'accompagniez pendant cette heure. Je suis convaincue que de l'autre côté des ondes, c'est la même chose. Merci. Donc, André, Étienne, merci Michel.
Grand plaisir.
Audet, on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
C'est un rendez-vous.